je vais dire quelques mots simplement de Saint Frédéric. C'était un saint évêque d'Utrecht en Hollande qui est décédé en 838. Il était le disciple d'un évêque remarquable qui s'appelait Ricfried, qui a été malheureusement oublié avec le temps. Et Frédéric lui a succédé en 828, il a donc été évêque 10 ans, évêque d'Utrecht, donc, en Hollande. En 834, 4 ans avant sa mort, Rabban Mort, dont je vous parlerai un jour, il a été béatifié, Rabban Mort, un des plus grands cerveaux de cette époque. C'était un homme qui écrivait dans d'innombrables langues, il a laissé des écrits très importants, et il a été nommé, ou surnommé plutôt, le précepteur de l'Allemagne. Il lui avait dédié un commentaire sur Josué qui est resté et qui est très important pour l'époque. Donc, Frédéric serait mort assassiné, dit-on, par des envoyés de l'impératrice Judith, qui était l'épouse de Louis le Débonnaire. De toute façon, ça n'est pas tellement important. Tout ce qu'on sait, surtout de Frédéric, il y aurait moyen de s'étendre là-dessus, mais ça n'est pas absolument passionnant, c'est qu'il a laissé une réputation de très grande bonté comme évêque, une activité sans bornes, et il s'est occupé beaucoup des malades, des pauvres et des délaissés dans son diocèse. Et ce n'était pas du tout un évêque, comme on imagine parfois que les évêques étaient autrefois. C'était plein de saints évêques et d'évêques qui étaient très près des pauvres. Malheureusement, souvent dans l'histoire, on nous parle des évêques qui n'ont pas été honnêtes, et celui-là, Saint Frédéric, a été un très grand évêque, paraît-il, mais rien d'éclatant, rien de spécial. C'est aussi aujourd'hui la fête de la bienheureuse Anne-Marie Javoué. C'est la fondatrice d'une congrégation très importante en France, Saint-Joseph de Cluny. Louis-Philippe, roi de France, au siècle dernier, a appelé cette femme un grand homme. Comme on voit, on avait bien des idées peu féministes à l'époque. Appeler une grande femme un grand homme pour lui rendre hommage est assez pénible. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il admirait Anne-Marie Javoué, qui a été l'apôtre des Noirs au 19e siècle. Elle a défendu les Noirs. Elle a commencé toute jeune par être une petite fille espiègle, en Bourgogne où elle est née, dans le centre de la France, disons. Et elle était la 5e de 10 enfants. Dans un ménage qui était vraiment chrétien. Alors elle a grandi un peu comme une fleur. Elle était un peu la préférée du père. Quand elle a atteint ses 10 ans, et qu'on parlait de première communion, son père, M. Javoué, qui était un simple laboureur, s'est opposé à ce que sa fille fasse sa première communion. Pourquoi? Parce qu'il la trouvait d'abord très jeune de caractère, un peu étourdie et pas très bien préparée. Heureusement, le curé, qui était un bon curé, a discerné la foi et la pureté profonde de cette petite Anne-Marie. Et puis, il était temps donc de lui donner la première communion, parce que c'était la Révolution française qui venait d'éclater, c'est 1791, c'était la grande tempête dans l'Église de France. Et alors, le curé, comme tous les prêtres qui ont refusé de prêter le serment, a été obligé de s'exiler. Et alors, il n'y avait plus de fidèles aux offices. Pourquoi? Parce que son remplaçant était un prêtre qui avait fait le serment et qui était donc considéré par les paysans là-bas, en Bourgogne, comme un prêtre schismatique, un prêtre qui avait donc quitté, pour ainsi dire, l'Église en n'obéissant pas aux exigences de cette fidélité qu'il fallait avoir à l'unique Église catholique et qui était, au fond, soumis au pouvoir politique révolutionnaire. Donc, la famille des Javoué se glissait dans la campagne, au loin, pour aller assister à la messe dans des endroits cachés, où il y avait des prêtres qui étaient réfractaires à la Révolution, qui célébraient la messe. Et chose étonnante, notre petite Anne-Marie, qui se faisait appeler Annette quand elle était petite, allait à la messe de ce prêtre qui était considéré comme schismatique dans son église. On se demandait si elle avait vraiment compris. Pourtant, si son père la jugeait un peu étourdie, c'était peut-être parce qu'il avait peur, en même temps, de lui révéler les secrets de ce qu'il faisait aux autres en allant au loin assister à une messe qui aurait été en principe plus valable. Et un soir, la famille des Jaboué ont accueilli en cachette un prêtre qui s'appelait l'abbé Balanche. C'était un prêtre poursuivi par les révolutionnaires. Et alors notre petite Anne-Marie Jaboué a entendu la conversation. Alors il fallait conduire le prêtre vers un mourant dans une ferme très éloignée. Il faisait nuit et le prêtre ne connaissait pas le pays. Alors notre future sainte a sursauté. Elle dit « J'irai. Je sais où est la ferme. J'ai pas peur. » Elle était peut-être étourdie, mais elle avait du caractère. C'est là qu'est venue sa sainteté, dans son caractère. Et elle est allée brave, en pleine obscurité. Elle n'a même pas fait l'usage d'une lanterne, de crainte de se faire poursuivre. Elle s'est faufilée dans le bois, et le prêtre l'a suivie, puis au retour, à voix basse, la conversation s'est engagée. Alors ce prêtre a été frappé par le courage tranquille d'Anne-Marie Jaboué, toute jeune et très courageuse. Alors il lui a montré la beauté de ce qu'elle venait de faire. Et la situation tragique vraiment des prêtres, la détresse des fidèles qui n'avaient plus de messe. Alors Anne-Marie, j'avoue, a si bien compris qu'elle a décidé de tout sacrifier désormais. Pourquoi? Pour servir. Elle voulait servir. Et toute sa vie est faite de service, de don d'elle-même. Alors dès qu'un prêtre arrive et qu'on peut espérer une messe, c'est donc Anne-Marie Jaboué, toute jeune, qui organise les cachettes pour les dissimuler. C'est elle qui calfeutre toutes les fenêtres afin qu'aucune lumière ne filtre. Ça nous rappelle, durant la dernière guerre, nos exercices contre les bombardements prétendus allemands sur Montréal. Il fallait tout calfeutrer nos fenêtres et toute la ville devenait noire. Ah, les gens plus jeunes n'ont aucune idée d'une ville de Montréal sans lumière, sans lumière. C'était très étrange. Alors donc, elle faisait ça aussi, et puis elle court avertir les fidèles, n'est-ce pas, qui sont dans le secret. Et tandis que la messe vient se dérouler, dans une atmosphère de catacombes comme les premiers chrétiens au début de l'Église, c'est encore elle qui sort à plusieurs reprises pour s'assurer que personne ne rôde autour de la maison Jaboué, de crainte qu'on se fasse arrêter, que ses parents soient jetés en prison et tués même. Ici, par malheur, elle aperçoit des espèces d'inquisiteurs, là. Elle sait les renseigner malicieusement. Et elle les fait entrer dans la cuisine, elle leur offre à boire et à manger, comme il se fait à la campagne pour tout visiteur. Puis elle leur parle, elle n'arrête pas de parler, et c'est comme ça qu'en cachette, et grâce à ses ruses, les malades, très loin, aux alentours de cette petite ville où elle est née, Chamblant, bien on recevait le Saint-Sacrement et pouvait mourir en paix. Durant toute la persécution, elle a fait ça pendant très longtemps. Et les enfants, comme ça, pouvaient aussi recevoir une instruction religieuse et le catéchisme. Et c'est comme ça qu'elle a désiré fonder cette congrégation plus tard de femmes qui se sont consacrées justement à enseigner la religion. Alors, son père pensait toujours, ma petite Nanette, il l'appelait Nanette, hein? C'est Anne, Annette, puis finalement Nanette, qui était considérée comme une petite prime sautière, petite fille vive, gaie, et bien même qu'elle est devenue un peu coquette, elle aimait les bijoux à un moment donné, mais mademoiselle Jaboué, comme on a dit un peu plus tard, c'était un beau parti, mais M. Jaboué n'a jamais voulu qu'elle entre en religion. Il était contre ça, mais finalement, Anne-Marie Jaboué est entrée dans une période de souffrance, des luttes, des oppositions, même des persécutions, puis toujours elle a gardé sa vivacité, une obstination profonde, un dévouement sans mesure, et quelque chose qui est toujours demeuré en elle, pour en faire cette grande apôtre des Noirs. Elle accomplit une carrière absolument extraordinaire. Sa congrégation était approuvée en 1807, une des premières au 19e siècle à être approuvée. Et ces religieuses qu'elle a fondées se sont lancées dans toutes sortes d'œuvres, l'enseignement, le soin des malades, l'aide paroissiale, l'émission. Elle est même devenue, elle-même, là, une missionnaire à l'île de la Réunion. Elle est allée au Sénégal. Vous savez qu'à cette époque, aller au Sénégal, c'était une aventure inconcevable. Faut pas voir ça avec les yeux d'aujourd'hui. C'était extrêmement dangereux, non seulement d'attraper toutes sortes de maladies terribles qui faisaient mourir les missionnaires à l'âge de 25 ou 30 ans. Il faut lire les récits de cette époque, c'est absolument bouleversant. Elle est allée aussi en Guyane française. Vous savez, traverser l'océan, tout ça, c'est absolument phénoménal. C'était une éducatrice née. Elle a été tout à la fois, une exploratrice, une bâtisseuse, une fondatrice d'ordre. Elle était experte même auprès du gouvernement sur les questions des Noirs. Et le roi Louis-Philippe, qui l'a appelé, comme je vous ai dit, un grand homme, l'aimait beaucoup. Elle a été béatifiée en Marie Javoué en 1950. C'était une novatrice apostolique intrépide. Et elle doit d'ailleurs, chose étrange à l'administration française des postes, d'avoir eu un timbre à son effigie. Et actuellement, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny sont environ 3500. Elles sont réparties dans le monde entier, en plus de 300 communautés. Et leur maison mère est à Paris. Elle disait un conseil absolument étonnant à ses sœurs. Écoutez bien, ça c'est surprenant. Vos deux qualités majeures seront quoi? C'est pas la piété et des choses comme ça. Cette sainte leur dit... Vos deux qualités majeures seront le courage et la bonne volonté. Surprenant, hein? Avec ces dispositions, ajoute-t-elle, les plus simples filles réalisent de grandes choses. Dans un rapport publié en août 1837 du gouverneur de la Guyane, adressé au ministre de la Marine à Paris, on peut lire ceci. Madame la supérieure Javoué prépare actuellement de vastes terrains destinés à devenir la propriété de chacun des Noirs qui doivent recevoir prochainement leur liberté, les anciens esclaves. Déjà, bananiers et maniocs sont plantés de sorte qu'au jour de la libération, chaque famille jouira d'une terre en plein rapport. Madame Javoué, c'est comme ce qu'il l'appelait, Madame Javoué, compte même, m'a-t-elle dit, remettre à chaque ménage assez de riz pour assurer sa subsistance pendant 4 mois. Une femme pratique, hein? Le rapport ajoute, et se termine ainsi, elle les laissera libres d'habiter les cases qu'ils occupent à Mana, ou d'en bâtir d'autres sur les terrains qui leur seront assignés comme propriété personnelle. Donc elle voit vraiment la liberté des Noirs. Dans son journal, on peut lire enfin ce qui suit. « Il m'arrive de ne pas comprendre les difficultés que je rencontre avec les autorités religieuses ou civiles. » Et écoutez bien, ça c'est une sainte qui parle. Hein. « Je dois plaider, convaincre, m'abaisser, me justifier. Puis-je avouer que je trouve plus de compréhension auprès des ministres du gouvernement, sinon des ministères, qu'auprès des responsables religieux. » Eh là là, pour une sainte, hein? Je voudrais pourtant n'être qu'une servante efficace de mon Église que j'aime. » Donc, Anne-Marie Javoué, ça s'appelle J-A-V-O-U-H-E-Y, qui a vécu de 1779 à 1851. Une fondatrice de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. J'aimerais vous parler de Charles Plisnier, qui a vécu de 1896 à 1952. Il n'a pas vécu très longtemps, comme vous voyez. 58 ans. Et je m'inspire d'un texte de Jean Roussel. C'est très, très beau, la vie de Charles Plisnier. C'est absolument merveilleux. « Je vais vers vous, mon Dieu, maître des destinées. » A écrit en 1913 ce jeune homme de 17 ans. Charles Plisnier, élève de l'Athénée à Mons, en Belgique. C'est un adolescent qui ignorait que la route serait bien longue et qu'il aurait à parcourir bien du chemin avant d'atteindre ce Dieu, tour à tour appelé dans le tremblement, et qu'il a refusé dans la fureur. À la veille de la Première Guerre mondiale, il n'y avait rien qui distinguait notre jeune Charles Pisney des fils de la bourgeoisie, qui fréquente les collèges et les facultés, lui-même et les fils industriels. Son milieu familial est pourtant largement ouvert aux idées nouvelles, car son père, qui est issu d'une famille paysanne, n'a pas renié ses convictions socialistes en devenant chef d'entreprise grâce à son mariage. Depuis Marx, Karl Marx, le socialisme est devenu, en Europe, l'aile marchande de l'athéisme. Libérer les ouvriers des servitudes du capitalisme, ça signifie aux yeux de la plupart des partisans du socialisme, ça signifie les libérer d'abord de quoi? De la croyance religieuse et de cette Église, l'Église catholique, qui sont dénoncées comme des entraves au progrès. Alors le père, M. Pisney, qui est un rationaliste, il l'est avec délice. Il s'imagine, bien naïvement à mon avis, que le bonheur humain sortira de l'athéisme. Alors notre jeune Charles Pisney, qui est né près de Mons en 1896, et sa sœur, sont baptisés. Mais ça s'arrête là, leur rencontre avec le christianisme. Cet enfant est nerveux, de santé fragile, il est épris de poésie et d'art. Il grandit, mais blessé par l'univers des grandes personnes qu'il trouve bien bourgeoises. Il est insatisfait, il est avide d'autres valeurs, d'autres biens que ceux que sa naissance lui accorde, parce qu'il est de famille assez à l'aise. Alors il fait l'apprentissage d'un certain romantisme. Et ça, ça nourrit son besoin d'exaltation. Puis au moment où il commence à mûrir un peu, là, il sait qu'il est aux prises avec un grand désir d'absolu. Et vous savez que les enfants sont souvent pris par un grand désir d'absolu, beaucoup plus qu'on ne le pense, ils ne nous le disent pas toujours, mais ça les habite. Alors Charles Pisney écoute, d'une oreille absolument complaisante, un bon ami qui lui fait lire la Bible. Et sous son influence, il commence à éprouver un penchant vers le christianisme, mais ça va pas vite comme ça. Et sans doute, il espère découvrir à ce moment-là la voie qu'il cherchait. En réalité, le pauvre homme s'enlise dans une espèce de mysticisme un peu morbide qu'on retrouve souvent autour de nous. Et nous-mêmes, moi-même, je crois m'être tombé un peu ça. C'est un mysticisme morbide qui est uniquement orienté, on peut dire, vers l'Église, les rites de l'Église, la beauté des liturgies, la splendeur qui nous est offerte par l'Église. Alors, quand il fait le bilan de cette crise, c'est pour s'apercevoir qu'à des interrogations qui étaient un peu confuses au fond de son cœur, il n'a obtenu aucune des réponses attendues. Alors là, il se tourne vers la bibliothèque de son père et il lit Darwin, Spencer, Thomas Huxley, Auguste Comte, Taine. Et c'était vraiment, à l'époque, là, ces gens-là qui offraient le trésor de la science et de la philosophie matérialiste. Alors, il opte pour la science, passionnément. Le scientisme devient pour lui une véritable mystique. Mais la découverte est sans lendemain. Et en lisant la valeur de la science, et puis « Sciences et hypothèses » de Henri Poincaré, qui ruinait, on peut dire sans appel, toutes les conceptions positivistes de la morale puis de la sociologie à l'époque. Là. Mais notre jeune étudiant, Charles Pisney, doute pour la première fois depuis 3 ans des pouvoirs illimités de la science. La science est incapable désormais de lui offrir une vue complète et harmonieuse du monde. Et ainsi, une nouvelle croyance qui s'effondre. Alors, quelle autre foi va remplacer tout ça? Une dernière ressource s'offre à lui. Et délibérément, il se tourne vers les penseurs socialistes. Alors là, il lit Karl Marx et Engels. Il est conquis. Et cette fois, se dit-il, il a découvert la vérité. Alors Charles Pisney a trouvé sa voie, il sera révolutionnaire avec passion. Il est permis de penser d'ailleurs que la rigueur intellectuelle de Karl Marx aurait été insuffisante pour faire de lui un communiste. Mais quand le 8 novembre 1917, avant la fin de la guerre, donc sur un boulevard de Bruxelles, il apprend que Lénine est maître de Petrograd, qui devient cette ville très importante, mais pour lui, l'histoire s'ouvre sous ses pas, avec une magie extraordinaire. Il a l'impression d'entrer dans une épopée d'un seul mouvement et de tout son être. Il espère de cette révolution russe le triomphe de la justice, la victoire de la liberté, la mise en œuvre des conditions d'un salut des hommes. Alors l'âme occupe une grande place dans son univers intérieur et pendant 10 ans, la révolution russe servira de cadre à tous ses rêves, à son besoin d'idéal, et sa route est désormais tracée. Devenu avocat, il n'achève une piédoirie que pour courir les meetings communistes et les réunions. Il donne des cours de marxisme, il dénonce le traité de Versailles. Il devient très, très important, hein, c'est pas n'importe qui. Tour à tour, orateur, journaliste, agent secret même, commissaire politique lors de l'insurrection de la Rure, bien, il sillonne toute l'Europe. Et en 1925, il est nommé président du Secours Rouge International, le Secours Communiste International, si vous préférez. Et en 1927, le Congrès de Moscou, donc 10 ans après la Révolution russe, eh bien le Congrès de Moscou auquel il prend part, le désigne comme membre du Présidium Juridique International. Vous voyez que c'est un homme extrêmement important, et à cette époque, de grands changements idéologiques s'annoncent en Russie. Alors, il devient un admirateur profond, de plus en plus, de la pensée de Lénine et de Trotsky. Mais il ne voit pas sans inquiétude là, les chefs communistes qui adoptent sous l'influence de Staline une méthode qui semble écarter l'Union soviétique des grands objectifs là, des premiers révolutionnaires. Vous savez qu'il y a eu une grande scission dans le communisme à cette époque, entre, si on peut dire, Lénine et Trotsky d'une part et Staline de l'autre côté. Alors, fidèle à sa mystique révolutionnaire, puis à sa fougue, puis sa hardiesse habituelle, eh bien, Charles Pisney, ce révolté par amour, qui est possédé par une idée messianique, si on peut dire, de la subversion, mais il voit se dresser contre lui tous ceux qu'on pourrait appeler les réalistes, les politiques, là, du plan quinquennal. Et ceci, là, ben, en majorité, lui signifie par un vote que sa place n'est plus dans le Parti communiste, il est chassé. Or, la décision qui le frappe de plein fouet, lui, un communiste aussi important, lui révèle soudain l'emprise d'une réalité soviétique là, qui est absolument inconciliable avec ses conceptions de justice. Du combat qu'il a mené au péril de sa vie, mais cet idéaliste sort complètement vaincu. Il ne reste plus à ce grand militant déçu qu'une grande douleur et un orgueil secret d'avoir vécu dangereusement. Pendant ces 10 années, l'action militante n'élimine pas l'homme intérieur. Il y a un poète qui habite en lui, et ce poète continue de vivre, il ne renonce pas. Et derrière le juriste qui est penché sur ses dossiers, derrière cet orateur qui haranguait des ouvriers, mais réagit un homme secret, qui cède, il cède à son délire, il supporte mal les contraintes et les limites du monde. Alors il se jette dans le surréalisme qui vient à point pour entraîner plus avant, dans ses rêves, cet homme extraordinaire. Ça lui ouvre les portes d'une étrange féerie. Alors, il tente de découvrir une issue à son trouble avec des poèmes. Il publie « Élégie sans les anges »,« Fertilité du désert »,« Prière aux mains coupées ». Alors, il retrouve une sève profonde qui l'habite. Il écrit aussi « L'enfant aux stigmates ». Et puis, finalement, il publie L'Histoire Sainte en 1927. L'Histoire Sainte mérite une mention spéciale, c'est un jalon sur un itinéraire spirituel dont seul à l'époque des esprits exercés pouvaient prévoir ce qui arriverait. Et dans cet ouvrage, qui est une véritable épopée lyrique de l'apostasie, l'auteur touche au sommet d'une révolte métaphysique. Il attaque Dieu. Or, il y a une haine contre Dieu terrible. Et ça atteint le blasphème. Il aura finalement un cri étonnant quand l'ouvrage paraît. Il dit « J'en demande pardon au Dieu de ma mère ». Et cette fois, il ne peut plus échapper au drame de sa vie. Dieu est honni par lui, refusé, insulté. Mais dans quelques minutes, nous verrons la suite qui est absolument phénoménale. Alors donc, cet homme, cet écrivain marxiste, publie un livre terrible, Histoire Sainte, en 1931. Il l'écrit en 1927, toutefois. C'est un ouvrage blasphématoire. Donc, en 5 ans, on a le temps de faire du chemin, n'est-ce pas, dans la vie. Et peut-être que la révolte ne brûle pas toujours aussi profondément dans son cœur quand il écrit « Mesure de notre temps » en 1932, à l'occasion d'un examen de la situation politique de l'Europe. Il écrit « Je ne puis me résoudre à admettre que les religions sont tout simplement faites et entretenues par les prêtres pour tenir les peuples en servitude. » Là, il ne peut plus croire ça. C'est l'enseignement, ça, d'une grande partie des marxistes et communistes. Alors donc, cet homme, cet écrivain marxiste, publie un livre terrible, Histoire Sainte, en 1931. Il l'écrit en 1927, toutefois. C'est un ouvrage blasphématoire. Donc, en 5 ans, on a le temps de faire du chemin, n'est-ce pas, dans la vie. Et peut-être que la révolte ne brûle pas toujours aussi profondément dans son cœur quand il écrit « Mesure de notre temps » en 1932, à l'occasion d'un examen de la situation politique de l'Europe. Il écrit « Je ne puis me résoudre à admettre que les religions sont tout simplement faites et entretenues par les prêtres pour tenir les peuples en servitude. » Là, il ne peut plus croire ça. C'est l'enseignement, ça, d'une grande partie des marxistes et communistes. Alors, le ton est nouveau. Pour la première fois, on peut voir que Charles Pisney s'élève contre une des affirmations de l'idéologie socialiste, puis de nouvelles idéologies à la petite semaine qu'on entend aujourd'hui, et on les entend à CKVL tous les soirs de 9h à minuit ce mois-ci, dans la bouche de ce dénommé Jean Savard. Je m'excuse, mais je ne peux pas retenir ma langue. Alors, Charles Pisney expliquera quelques pages plus loin dans son livre « Mesure de notre temps », qu'ayant cru au pouvoir de la révolution marxiste de réaliser toute une véritable révolution de la société, il a été amené à reconnaître que le système de Karl Marx rendait mal compte de ce grand mouvement de la vie. Alors Pisney sait désormais que l'homme possède d'autres dimensions que celle que les philosophies matérialistes lui accordent. Il écrit quelque chose de très beau, puis il est question des saints. Le matérialisme historique, dit-il, explique la concentration des capitaux, la formation des classes. Il n'explique pas toutefois l'apparition au sein des classes opprimées de ces sortes de saints qui ne peuvent se retenir de traduire en actes leurs pensées, qui prennent sur eux toute la charge d'un changement du monde, une fatigue inhumaine, le risque de mourir, et imposent aux hommes, leurs frères, de souffrir pour un bonheur futur qu'ils ne conçoivent pas. Pensez à Anne-Marie Javoué, qui a transformé son monde. À Saint-Frédéric, cet évêque du 9e siècle dont je vous ai parlé au début de l'émission. Alors, par cette déchirure qu'il ressent intellectuellement, on peut dire que la vérité chrétienne va passer dans cette déchirure. Il faudra attendre 4 ans pour que ça se manifeste plus ouvertement. C'est une quête épuisante qu'il a au fond de son cœur. Ça va se poursuivre jusqu'à ce qu'il s'agenouille au fond de son cœur en écrivant Ave Genitrix. C'est un hymne à la Sainte Vierge. Surprenant de la part d'un homme comme ça, Marie. Bien oui, que moi je suis absolument bouleversé devant ça. Hein. Un homme aussi génial, aussi phénoménal, aussi audacieux, plein de blasphème, qui est mis à genoux par la Vierge. En somme, c'est pas l'essayiste ni le romancier qui va nous révéler sa conversion, c'est le poète en lui. Car pour lui, seule la poésie est digne et capable de traduire ses états d'âme. On peut regretter que sa renommée de romancier ait été rejetée dans l'ombre. Parce que c'est une œuvre qui illustre les paroles de Rimbaud. Rimbaud qui disait « Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes. » Son œuvre renferme quelques-uns des cris les plus déchirants qu'un homme ait fait retentir. C'est un homme qui est sevré d'éternité, mais pourtant il veut de l'infini. Les années qui vont de 1933 à 1938, ça va être des années tournantes dans cette destinée qui est vraiment tumultueuse. Il est rejeté donc du Parti communiste. Charles Plisnier y a retrouvé sa liberté. Il peut se croire libre de tout, sauf de Dieu. Quiconque, comme lui, a vécu déchiré entre l'action et le rêve, entre la réalité puis l'imaginaire, bien aucun repos n'est possible, tant que ne sera pas résolu le problème capital qui a pris place au centre de sa vie. Et pendant des années, il y a des balancements au fond de son âme, il y a des ruptures. Ça retarde la conquête complète de lui-même qu'il désirait, d'autant plus qu'elle semblait se refuser toujours. Et ces années sont remplies d'événements qui devrait le rendre heureux et satisfait. Il publie un ouvrage, Mariage, en 1936, et en 1937, Faux passeport, un recueil de nouvelles avec lesquelles il remporte, pas n'importe quoi, il remporte le prix Goncourt. C'était la première fois que ce prix français était accordé à un étranger, n'oublions pas qu'il était belge. Ce n'est qu'en 1937, d'ailleurs, qu'il quitta la Belgique pour s'installer définitivement en France. En somme, tout se passe comme si Dieu veillait. Cette âme qui est déchirée ne saurait échapper à Dieu, à moins de tomber au pouvoir de Satan. Et cet athée qui était entré dans la révolution se sent maintenant pris sous le vent de Pascal, comme il écrit, Blaise Pascal. Et ce n'est déjà plus le même incroyant. Celui qui écrivait « La guerre des hommes » en 1920 et celui qui évoque l'histoire du bolchevisme dans trois livres de poésie qui vont de « Déluge » à « Celle de la terre » en 1933. D'ailleurs, le dernier recueil, « Celle de la terre », nous laisse percevoir l'héritage qu'il a reçu de ses souvenirs chrétiens de son enfance. C'est une voix qui vient d'ailleurs et qui touchera un jour ceux à qui le communisme n'a offert finalement qu'un chant bien monotone, des usines finalement. Qu'est-ce que ça chante le communisme? Le chant des usines, des espoirs d'un évangile à l'envers. Parce qu'on n'impose pas le sens de la justice, on vit le sens de la justice, et ça se vit avec le Christ dans l'évangile. On ne peut pas convaincre le monde de faire le bien à coup de règlements, de camps de concentration et d'hôpitaux psychiatriques où l'on traite les savants. C'est pas comme ça qu'on change le monde. Hein. La voix qu'il entend, ça ne peut être que la voix du Christ. Il écrit, en vérité, je vous le dis, vous serez comme ceux d'Emmaüs et le ressuscité toucha leur épaule. Ils n'avaient ni halo, ni crachat, ni limbe. Et nul ne reconnut le Fils de l'homme. On le voit s'approcher de Jésus. Cet inconnu déclare à tous les hommes qui attendent dans le désert que le vent de l'Esprit souffle sur le monde, et que chaque fois qu'il souffle, on peut dire que les murs de Jéricho se défont, comme il écrit, et le sel descend sur Sodome. Il a un sens très poétique. Il écrit aussi des femmes qui fuyaient un nuage du soir, une plume de colombe, dessinent des croix au devant des fauves et reçoivent en souriant l'hostie et l'ombre. C'est un poète très très influencé, comme vous voyez, par le surréalisme, mais c'est un grand poète à mon avis. Le poète de celle de la terre n'interdit plus à un dieu, qui ne nomme pas encore, d'être présent dans les événements, dans le présent, dans l'histoire. Charles Péguy, d'ailleurs, disait que 40 ans est un âge terrible. Charles Pisnier, qui veut se trouver et non se fuir, ne l'ignore pas. Il arrive au centre de l'inquiétude, qui est souvent une porte qui est ouverte sur le divin. C'est au cœur des 40 ans souvent qu'on trouve Dieu. L'heure n'est pas venue où il dira adieu à ce monde fermé qu'est le marxisme. Cependant, cet orgueil de l'homme qui se veut Dieu l'a abandonné. Et en face de tous les frittements d'un univers auquel il croyait, et qu'il croyait avoir conquis de haute lutte, bien, il change. Il écrit « Nous savons bien que nous sommes des âmes errantes, étrangères, perdues sur des rochers, au bord de la gorge des mers. » Il a un style vraiment, moi, qui me plaît. Charles Pisnier sait que son combat n'est pas achevé, son âme est prise. Mais elle ne s'est pas abandonnée à Dieu encore. Et il ne parle de sa conversion qu'au futur. Parce qu'il veut épuiser tous les moyens d'écarter cette conversion, il écrit « Dieu me verra venir dans mes lignes amères. Il fera s'écarter les anges trop penchés sur ce triste transfuge en état de péché. Je lui dirai « Seigneur, je viens chercher ma mère. » En somme, c'est un homme qui est hanté par le refus, mais en même temps par le désir de la grâce. Il veut que la grâce vienne battre son cœur qui saigne. Il n'en peut plus de résister à Dieu. Il écrit un autre poème blasphématoire. Je le lis parce qu'il est beau, même s'il est blasphématoire. Et je m'en excuse auprès des âmes trop sensibles. C'est pas long. Sois nié, mon Dieu. Il dit bien mon Dieu. Donc c'est pas un blasphème total. Sois nié, mon Dieu. Sois nié, toi que j'appelle. Visage que je voyais ma mère, bras qui prirent ma mère en son sommeil, soif de ma mère, soit nié. Mais oui, il y croit, mais il le nie parce que son esprit est encore très orgueilleux. En somme, à côté de tous ces cris de fureur, ben, il dresse le bilan de sa vie. Il piétine, il est dans le désarroi atroce, puis il constate. Voici ce qu'il écrit. « Alors tout s'en va, qui fut toi, charnel, qui fut toi. » En somme, il faut qu'il se débarrasse de ce qui est charnel en lui. Sa détresse ressemble à une lente agonie. Ses poèmes font entendre une désespérance infinie. Le néant du monde lui monte aux lèvres. Captif, captif, il se dépouille lentement. Malgré lui, du vieil homme qu'il a été. Il sait maintenant qu'il faut naître à nouveau pour suivre la voie du Christ et recevoir la lumière. Et cette voie est celle de l'amour, celle de la croix. Et l'auteur d'un volume qui s'appelle Sacre, il désigne ces voies-là. Il dit, quand tu as reconnu en toi cette présence, il n'y a plus de rire ni de pleurs, de fureur ni d'innocence. C'est très beau. Pensez au fond de votre cœur ce que ça veut dire. Quand tu as reconnu en toi cette présence, présence de Dieu évidemment, présence de Jésus, il n'y a plus de rire ni de pleurs, de fureur ni d'innocence. Qu'est-ce qu'il y a? Une grande sérénité, une grande paix. Toutes les apparences d'autrefois se fondent finalement dans une nouvelle vision qu'il a des êtres humains puis des choses. Il écrit « J'entends, je vois, je touche une clarté seconde, Tout se trahit, montrant son masque d'éternel. Tout diminue, se fond et se mesure au ciel. Quand il achève cette confession-là, bien notre pèlerin, qui était si obstiné, il n'est pas encore parvenu à dépasser son drame. Il entrevoit Dieu. Il le reconnaît. Mais comment ça va se faire? Quel sera l'instrument de sa conversion définitive? Alors Charles Pisnier n'arrête plus sa recherche. Alors là, il consulte des prêtres sur les problèmes qui le hantent. Il médite les évangiles. Il lit des œuvres de mystique, des traités même de théologie. Alors à côté de Saint-Augustin, il ouvre ce livre admirable de Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion. C'est un intellectuel. Il n'a pas complètement déserté le domaine de la vie intellectuelle. Il exige, du fond de son cœur, une adhésion de l'intelligence. Ce sont des heures difficiles et harassantes. Ce ne sont pas les philosophes, ni les penseurs chrétiens cependant, qui emporteront le dernier retranchement et nous verrons comment il se convertira. Quand Charles Pisnier va achever son triptyque poétique dont je vous ai parlé, il écrit autre chose, Ave Genitrix, vers 1941, j'en ai parlé tout à l'heure. Et là, il révèle le nom de la femme qui a eu raison de ses derniers doutes. Il salue sa mère. Il dit, « Quand j'appelle Dieu, c'est ma mère que je vois venir vers mon cœur. » C'est assez curieux, hein? J'espère que ça peut consoler beaucoup de mères qui m'écoutent. Beaucoup de mères qui sont inquiètes au sujet de leur fils. Cette mère lui avait déposé dans le cœur des choses précises au sujet de la foi. Et voilà qu'il écrit « Quand j'appelle Dieu, c'est ma mère que je vois venir vers mon cœur. » En somme, l'âme d'une morte est devenue assez puissante pour s'imposer à lui. La présence de Dieu ne cesse de grandir dans son cœur. Il écrit « C'est que Dieu, comme une ombre, emplit l'âme qu'il a déjà sauvée. Fais donc que tout meure, que tout en toi périsse et se défasse. Alors mon image s'efface. Dieu te reconnaît, il t'absout et te découvre enfin sa face. » Car il avait une grande admiration pour le Saint-Suaire de Turin. Il écrit aussi « Des mots éteints depuis l'enfance se sont remis à luire en moi. Je fais encore appel à toutes les mères et les pères qui sont inquiets de l'avenir de leurs enfants sur le plan de la foi. » Écoutez bien ce qui vient, je viens de lire. « Des mots éteints depuis l'enfance se sont remis à luire en moi, à rayonner en moi si vous voulez. Agneau, voici les mots, agneau, grâce, épine, innocence, le vinaigre au goût de naissance, l'épine au front, les clous aux doigts. » Charles Pisnier, écrivant ses poèmes, a donc voulu préciser que le Dieu qu'il rencontre n'est pas celui des philosophes. Son visage à Dieu, c'est celui du Saint-Suaire de Turin. Ce suaire de Jésus, pour lequel les martyrs romains allaient au supplice. Ça, le visage de Jésus, la face de celui dont ils avaient entendu parler. Sa présence est celle qui a foudroyé Pascal dans la nuit, et celle qui aimante, qui attire la volonté des saints dont je vous parle depuis 2 mois et demi. Sa voix est toujours celle qu'a entendue Paul de Tarse sur la route de Damas. « Seigneur, de quelle main toucheras-tu la vie de ce pécheur mordu de chancre et d'orgueil ?» écrit Charles Pisnier. Alors il ne doute plus de la rémission divine. Ses anciens refus, dont il s'accuse, sont lavés par l'amour de Dieu. Il est saisi par l'amour de Dieu. Il écrit « J'ai refusé ta loi, j'ai haï ton message, j'ai vomi sur ta croix ma bave et mon sang noir. » Et il entend cette voix, « Mon fils, voici ma voix, mes mains et mon visage. » C'est puissant, hein? C'est très audacieux. Cet homme rebelle et finalement vaincu. Il s'est suffisamment dépouillé pour devenir un homme nouveau et offrir toutes ses souffrances et tout son amour à celui qui peut seul les recevoir et les faire germer par sa grâce. Et ce serait mal connaître Charles Pisney que d'imaginer qu'il trouve dans la foi un point d'arrivée. Oh non, pour cette âme qui est toute frémissante, il ne peut s'agir que d'un nouveau départ. Alors sa foi a des bases solides qui sont celles de l'Église catholique. Et il affirme avec vigueur, je crois tout ce qu'il y a dans le credo. Que serait en effet la foi sans les œuvres, dit-il. Il écrit cela. Sa détresse et sa misère humaine, elles sont celles d'un être qui croit n'avoir jamais assez donné de lui-même aux autres pour mériter l'amour de Dieu et pour répondre toujours davantage à l'appel du Christ. Puis il avance sur la route qu'il s'est choisie et puis il abandonne tous ses masques. Nous avons tous des masques et c'est ça qu'il faut abandonner par la grâce de Dieu. C'est l'écrivain Albert Béguin, de la revue Esprit, qui a rapporté après sa mort, justement dans la revue Esprit, ce jour où, dans une réunion à Paris, il a entendu ce Charles Pisney révéler les lignes de fête de sa vie intérieure. Vivre, disait-il, n'a qu'un sens. C'est préparer peu à peu le visage meurtri que chacun de nous un jour devra présenter à Dieu, ce visage où se liront en clair, comme le plus beau des textes, toutes les défaites subies et toutes les conquêtes assumées. Alors Charles Pisney prie avec une grande ferveur, et durant les dernières années de sa vie, il se contente plus de se réfugier chaque jour dans un coin de son parc qu'il appelait son oratoire. Il prie souvent dans le cours de ses activités quotidiennes. On a pu le surprendre même que jusque dans un escalier, plongé dans une sorte d'oraison si profonde qu'il en oublie la présence des personnes qui passent autour de lui. Ses amis s'étaient habitués à le voir faire fréquemment le signe de la croix alors qu'il était au volant de sa voiture parce qu'il priait. Et sa vie intérieure, certes, restait secrète. Il lui arrivait de se trahir comme un jour où il a déclaré « J'ai trop aimé les mots, j'atteins au silence ». Lui qui était si centré sur la littérature et les mots, il s'est rendu compte que c'était dans le silence. Dans le silence que Dieu parle. Et dans ce silence, les âmes prennent aux yeux de Charles, aux yeux de Dieu, un bien plus saisissant relief. Une âme dans le silence devant Dieu est saisie par l'Esprit Saint, par Dieu. Il écrit d'ailleurs au sujet de Dieu quelque chose de magnifique, qui nous rappelle un peu les propos de François Varillon hier. « Dieu n'est pas un tortionnaire embusqué au coin des âmes. » Sur la souffrance, il écrit quelque chose d'extraordinairement important qui rejoint encore François Varillon. « L'utilité de la souffrance, disant qu'elle est un bien pour l'âme, et qu'elle nous est nécessaire pour sortir de la matérialité des choses. En somme, la souffrance ne plaît pas à Dieu. Elle est un bien pour l'âme. C'est pour nous-mêmes qu'elle est bonne, notre souffrance. Oh, j'ose dire ça, mais quand je pense aux très grandes souffrances de certaines personnes, je devrais me taire. Mais disons que je parle pour les souffrances que nous avons, pour la plupart d'entre nous, à endurer, même des grands deuils. Elle nous est nécessaire pour sortir de la matérialité des choses et pour plonger en Dieu. En somme, la valeur unique de toute vie, c'est le don. Alors il s'achemine vers une forme toujours plus haute et plus pure de spiritualité. À mesure qu'il gravit les pentes escarpées du détachement, il se simplifie. Il prend de plus en plus conscience que tout risque assumé, et on tombe dans les actes d'amour qui sont conquis sur notre égoïsme. Et en 1951, il y a une première crise de santé qui qui a failli l'emporter. Il a dit, j'ai bien cru que j'allais mourir et j'ai fait mon examen de conscience et j'ai fait un acte de contrition. Dit-il avec une grande simplicité comme un catholique très traditionnaliste. C'est très étrange. Et c'est dans le même esprit qu'il aborde la grave opération qu'il a subie au cours de l'été 1952, moment de sa mort. Avant de se livrer aux anesthésistes, il dit, et si quelque chose ne va pas, bien qu'on appelle un prêtre. C'est très simple. Ben oui. 48 heures plus tard, un prêtre est venu et l'a confessé. Il a encore la force et la joie de parler du Christ à la religieuse qu'il soigne et qui n'oubliera plus sa prodigieuse ferveur. Écoutez bien ce qu'elle dit, cette sœur. Jamais personne ne m'a parlé du Christ comme M. Plismier m'en a parlé avant de mourir. Le dernier mot qu'il prononce sur la terre est le mot amour. Pour donner son véritable nom à Dieu, c'est le mot amour. Et sans doute, il s'associe à ce moment-là à tous ceux qu'il a aimés, à la suprême espérance qui le porte vers l'éternité. Et parvenu au dernier rendez-vous, son visage reflète enfin la sérénité. Ceux qui le contemplent peuvent songer aux paroles de saint Augustin qu'il aimait bien citer. C'est les plus belles paroles de saint Augustin peut-être. « Tu m'as créé pour toi, Seigneur, et mon cœur ne trouve pas de repos aussi longtemps qu'il ne repose en toi. » Avec toute sa vie, il a témoigné jusque dans la mort pour cette vérité qu'il avait conquise de haute lutte.